Bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Aujourd'hui, nous allons nous demander ce que valent les grandes annonces politiques sur l'école.
Lorsqu'on gêne les cours, lorsqu'on défie l'autorité, lorsqu'on dégrade, qu'on menace, voire que l'on agresse, cela ne doit jamais rester sans conséquences, et cela ne peut pas rester sans conséquences s'agissant des examens et des bulletins scolaires. Dès lors, je suis favorable à ce que les jeunes qui perturbent le plus gravement les cours se voient sanctionnés sur leur brevet, leur CAP ou leur bac, et qu'une mention soit apposée sur leur dossier Parcoursup lorsqu'ils ont gravement perturbé la vie de l'établissement pour que cela ait un impact.
Une annonce parmi les annonces de Gabriel Attal le 18 avril à Viry-Châtillon, la ville où un garçon de 15 ans, Shamseddine, a été tué par d'autres jeunes. D'où l'émotion bien légitime qui a traversé le pays et la classe politique. Le discours de Gabriel Attal a été, je l'ai dit, très médiatisé. Il a été commenté ad libitum dans les médias à tel point que 11 jours plus tard, ces annonces paraissent presque lointaines. Alors que valent ces déclarations? Que valent-elles en termes de conséquences et d'applications? Qu'est-ce qui, dans ce qui a été prononcé, pourrait être effectivement réalisé? Attention, ce n'est pas remettre en cause la parole d'un ministre en particulier que de dire que les paroles politiques sur l'éducation ne sont pas toujours suivies des effets annoncés. Enfin, on va en discuter évidemment avec nos invités. Ensemble, nous nous demanderons aussi s'il est rentable pour les politiques de s'emparer des sujets scolaires. Le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Gabriel Attal l'ont beaucoup fait. Est-ce que cela éclipse d'autres sujets, d'autres enjeux aussi importants pour l'école, voire plus important peut-être, et quelles conséquences tout cela a sur les enseignants, les acteurs de l'école et nous tous? Je vais saluer tout de suite les invités. Nicolas Hubé, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec moi dans ce studio. Vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine, membre du Centre de recherche sur les médiations, le CREM, et bravo pour cet acronyme. Vous enseignez également à l'INSPE, donc c'est là où on forme les enseignants, à l'Université de Lorraine, et vous avez co-dirigé avec Philippe Aldrin « Introduction à la communication politique », un livre que beaucoup d'étudiants doivent lire. C'était publié en 2022 chez Debec. Avec nous et à distance, Jean-François Condette, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités en histoire contemporaine à l'Université de Lille. Vous connaissez bien l'histoire de l'école. Vous aussi, vous enseignez à l'INSPE, donc dans cette académie de Lille Hauts-de-France. Vous êtes membre du laboratoire IRIS, l'Institut de recherche historique du Septentrion. Et vous avez dirigé un livre extrêmement intéressant de la difficulté d'enseigner, permanence et mutation de la fin du XVIIIe siècle à nos jours aux presses universitaires du Septentrion en 2023. Et on va peut-être parler de cette difficulté d'enseigner et de la formation des enseignants. La première question que je me suis posée après ce discours, et au-delà du discours, hein, je le disais, tout son commentaire, Nicolas Hubé, c'est si, en fait, quand on fait des annonces sur l'éducation, on fait en même temps, on peut faire aussi de la communication politique. Et comment vous, en tant que, parce que vous n'êtes pas spécialiste de l'école, même si vous connaissez bien le sujet, vous analysez cet exercice très spécifique de parler de l'école en essayant de montrer qu'on se situe politiquement. Et d'ailleurs, vous pouvez dire comment le Premier ministre s'est situé le 18 avril.
Alors, il y a plusieurs manières de répondre à votre question. Est-ce que parler d'école, c'est un sujet politique? Évidemment, c'est éminemment un sujet politique, parce que ça renvoie à ce que l'on fait de nos enfants, et c'est ça ce qui est véhiculé, nos enfants, et donc ça concerne tout le monde. Tout le monde a été enfant, tout le monde est passé par l'école.
Donc c'est la vie de la cité, c'est le politique.
Exactement,
avec un grand P.
C'est parmi les grands sujets de ce que vous qu'on peut appeler la gouvernementalité. Vous avez la famille et le droit de la famille. C'est d'ailleurs ce qu'on apprend en première, premier semestre en fac de droit, le droit de la famille et le droit constitutionnel. Et derrière ça, c'est évidemment le projet éducatif. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Et donc, évidemment, se positionner sur un sujet d'éducation, c'est faire un acte politique assez fort. Et on le sait à travers l'histoire, et je pense que mon collègue historien pourra le confirmer, depuis un siècle et demi, les débats autour de l'éducation sont des débats qui ont été extrêmement clivants autour des valeurs justement de la République, entre une école dite libre face à l'école de la République, etc., etc., les hussards noirs de la République. C'est donc tout un projet de société qui est véhiculé à travers l'école, à travers les écoles, à travers le monde. C'est un des sujets sur lequel tout gouvernant a son avis à donner.
On fera peut-être un peu de comparaison internationale d'ailleurs. Alors, on sait que par exemple, aujourd'hui, presque tous les partis se disent républicains en matière d'éducation, quand bien même on n'est pas contre l'école privée. On se dit républicain, cette importance très historique hein, du sujet éducatif et éducation nationale dans le paysage, évidemment, politique, on le connaît bien ici. Mais je prolonge ma question, je la précise. Nicolas Hubé, est-ce que ça permet de se situer sur l'échiquier politique pour vous ?
Oui, ça permet de se situer en tout cas dans un axe gauche-droite assez fort, ou un axe plutôt progressif-conservateur. Lorsque le Premier ministre, lorsque le Président, lorsque la ministre de l'Éducation rappelle avant tout la question de l'autorité, c'est clairement se positionner du côté d'un axe qu'on pourrait appeler plus traditionnaliste, plus conservateur de transmission de ces valeurs face à ce que a pu être une position plus libérale, plus progressiste ou plus de gauche, plus mai 68 arde, post 68 arde, où l'éducation doit être autre chose, la formation à l'esprit critique par exemple.
Mais on n'entend plus beaucoup de politiques se réclamer de l'esprit de 68 si on n'en a jamais entendu aujourd'hui. Même à gauche, alors évidemment du côté des syndicats, des acteurs de l'éducation, il y a d'autres paroles. Mais dans le champ politique, il me semble, alors je vais poser la question à Jean-François Condette, qui est historien, que depuis, alors est-ce, vous allez tout à fait m'éclairer, est-ce depuis les années 2010 et les attentats où on a réaffirmé les valeurs républicaines comme très centrales dans l'école avec Najat Vallaud-Belkacem et puis ensuite Jean-Michel Blanquer. Est-ce depuis beaucoup plus avant dans le temps? On peut penser à Jean-Pierre Chevènement en 84. Je sais que j'ai fait un grand saut en arrière. Enfin, comment vous analysez-vous cette évolution, Jean-François Condette?
Merci. Mais, en fait, je rejoins tout à fait le collègue dans l'idée que tout projet scolaire, tout projet éducatif est un projet politique. Parce qu'il y a, il y a derrière systématiquement une conception de la société, un certain nombre de valeurs à diffuser. Et on peut s'en repartir très très loin. La création des lycées par Napoléon, derrière il y a un projet de former des cadres pour son empire. Les monarchies feront la même chose. Et si, en passant des périodes historiques, si on arrive à la Troisième République avec Jules Ferry, il y a un projet politique derrière qui est enraciné la République avec les fameux hussards noirs dont on pourrait discuter longuement. Et si on rapproche encore, je dirais qu'il y a, il y a, moi je vois pas de coupure majeure au niveau d'une, je peux pas employer le terme de récupération politique. Il y a des projets politiques, il y a des projets éducatifs qui sont systématiquement politiques. François Mitterrand en 1981, il y avait toute une dimension de projet éducatif dans ses 110 propositions. On peut reprendre ensuite.
Et c'est un peu compliqué parce que vous êtes à distance et désolé de vous interrompre, Jean-François Condette, mais est-ce qu'on peut dire que dans les années 70 et finalement aussi une partie des années 80, cette dimension républicaine était moins mise en avant et aussi cette dimension d'autorité, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit parce que moi je parle depuis 2024 et je suis pas historienne comme vous.
Il y a certainement un tournant que je verrais peut-être même plus tôt, j'ai l'affaire des foulards de Creil, c'est 1989. Et on commence déjà à retravailler très fortement la question de la laïcité, de la formation à la laïcité, de la, quelque part de, du renouveau de ce qu'on appelait à l'époque l'éducation civique, etc. Vous disiez vous-même, Jean-Pierre Chevènement, qui restaure les, l'éducation civique au collège, par exemple, c'est 86. Donc il y a 86-89, il me semble qu'il y a déjà des choses qui se sont accentuées après. Je vous rejoins avec Najat Vallaud-Belkacem, avec Vincent Peillon, etc. Mais je dirais que la fin des années 80 et le début des années 90, il y a déjà, une mobilisation, une remobilisation autour de la formation du citoyen, de l'apprenti citoyen par l'école. Qui va en s'accentuant après, mais avec une forte instabilité, je dirais, dans les mesures, dans les dispositifs.
Nicolas Hubé, ce qui est intéressant, c'est que c'est un marqueur très fort en France. Alors, pas forcément pour se situer politiquement, parce que sur le côté formation du citoyen, là, tous les partis ont l'air d'être d'accord. En tout cas, les partis qui ont été au pouvoir. Est-ce que dans d'autres pays, je sais que vous connaissez bien l'Allemagne, le débat est comparable et se noue autour de la question des valeurs?
Alors le débat est pas comparable parce que on parlait tout à l'heure à l'instant de la République et des valeurs de la République. Le projet qui est porté, notamment, on l'a évoqué sous Mitterrand avec Chevènement, les 80% d'une génération au bac dans les années 80, c'était un projet républicain sur l'axe égalitaire. Et ça fait suite à tous les travaux de sociologie de l'éducation. On pense à Bourdieu. Passeront sur les héritiers. On pense à tous les, justement, tout ce qui fait et tout ce qui bouscule l'éducation nationale dans les années 70.
Donc le collège unique.
Le collège unique, exactement. L'idée qu'il faut passer non seulement à une démocratisation de masse par le nombre, à une démocratisation également sociale. Permettre l'accès à l'enseignement supérieur de différents milieux sociaux. Et c'est pour ça qu'on va créer les REP qui sont l'idée d'une discrimination positive à la française.
Alors, les REP,
donner plus de moyens.
Qui s'appelait les ZEP. J'adore traduire les acronymes. Oui, c'est ça, et c'est l'éducation prioritaire.
Zone d'éducation prioritaire. C'est donc donner plus de moyens à ceux qui n'en ont pas pour justement leur permettre d'accéder à l'enseignement supérieur. Et ce qui se passe à partir de la fin des années 80, l'affaire de Creil et ensuite, c'est que on oublie les valeurs égalitaires pour axer les valeurs de la République autour de la laïcité et de durcir finalement ces valeurs de la République autour uniquement de la laïcité comme un marqueur identitaire quasiment.
Ça, c'est pas une opinion que vous avez, enfin, parce que je redis que vous êtes spécialiste de la communication politique. Ça, c'est ce qui ressort de l'analyse des discours politiques sur l'éducation.
Oui, tout à fait, parce que c'est ce que l'on peut aussi observer dans la réforme des programmes de l'INSPE.
Donc la formation des enseignants.
Il y a 5 ans, j'arrive à l'INSPE, il y a un cours qui s'appelle « Valeurs de la République ». Et immédiatement après, le cours est modifié et on a des consignes venant du ministère pour que ce cours devienne valeur de la République et laïcité, suite à un rapport sur la laïcité. Les valeurs de la République, c'est la laïcité et la laïcité, comme si la laïcité était quelque chose à côté des valeurs de la République. C'est pas les valeurs de la République, point,
dans lesquelles
on met
le
liberté,
sujet,
égalité, fraternité, laïcité et d'autres sujets, mais on focalise là-dessus. Et on se rappelle tous les débats autour de Jean-Michel Blanquer, y compris la lutte contre le wokisme, etc. Donc le sujet de la laïcité devient un enjeu clivant. Et ce qui est très intéressant, c'est comment la droite s'empare de la laïcité, alors que c'est plutôt historiquement une valeur de gauche, pour en faire un cheval de bataille, alors post-attentat, justement pour affirmer des valeurs plus identitaires, d'une France laïque, et on sait avec le printemps républicain, etc. Et c'est ce qui va aussi troubler le clivage à gauche entre les défenseurs d'une laïcité plus ouverte et une vision plus dure de la laïcité. Et si on regarde du côté, par exemple, de l'Allemagne, qui est qui était dans votre question et qui est un pays que je connais bien en politique. Ce débat autour des valeurs éducatives, évidemment, il a traversé le camp politique. Les Verts en Allemagne ont très tôt été les porteurs d'un projet plus libertaire, on va dire, anti-autoritaire d'éducation. Les libéraux également. Et donc, on a l'axe traditionnel gauche-droite, libéral versus conservateur. Mais il n'y a pas ce clivage autour de la laïcité. Alors, d'une part, parce qu'elle n'existe pas en tant que telle, et même si, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des débats, il y a des procès qui sont perdus, d'ailleurs, sur le crucifix dans les écoles de Bavière, ça n'en fait pas un sujet de dynamitation quasiment dans le débat politique. Aujourd'hui, un peu du côté de l'extrême droite qui monte et du côté de l'AFD, on en fait un sujet identitaire, mais ce n'est pas un enjeu de clivage. Et donc, les débats sont un peu plus apaisés sur ce point.
Intéressante comparaison. Jean-François Condette, vous qui avez dirigé l'ouvrage de la difficulté d'enseigner, comment jugez-vous des déclarations qui sont souvent prononcées dans l'idée d'aider les enseignants, en tout cas c'est comme ça que c'est dit, d'aider les enseignants dans leur tâche de maintenir une autorité suffisante pour enseigner dans de bonnes conditions, les enseignants pour enseigner les valeurs de la République, comme on le dit depuis presque 10 ans maintenant, et puis la laïcité qui doit être respectée dans le cadre scolaire. Est-ce que ça aide les enseignants d'après vous? Les déclarations des politiques.
Oui, pour juste rebondir sur ce que disait le collègue, c'est vrai que la laïcité a pris un peu toute la priorité d'un peu dans nos formations, dans les INSPE. Je rajouterais quand même que l'égalité, la valeur d'égalité, enfin, du moins chez nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, elle a gardé une place quand même importante par toute la politique d'inclusion scolaire, etc. Ça, c'est quand même fait assez souvent en formation, avec cette idée de quelque part que les élèves à besoins éducatifs particuliers doivent pouvoir bénéficier de l'école de la même façon que les autres élèves. Donc ça, je rejoins tout à fait, sinon cette priorité donnée à la laïcité ou à comment enseigner parfois le fait religieux de manière laïque. Alors après, sur la question des réformes dans la formation des enseignants pour mieux les armer, il y a quand même quelque chose qui est un peu bizarre en France, je dirais, c'est la succession de réformes. Depuis quelques années, on est passé des UFM aux ESPE, des ESPE aux INSPE, et on va bientôt passer à autre chose, sans qu'il y ait réellement de bilan fait à chaque fois, avant de supprimer un système pour passer à un autre. On a un peu l'impression que la formation des enseignants, le recrutement et la formation des enseignants va permettre de régler tous les problèmes. On peut régler un certain nombre, mais ça va pas forcément déboucher sur. Il faudrait laisser du temps au temps quelque part sur un certain nombre de points. Alors après, qu'il y ait de la formation sur la laïcité, qu'il y ait de la formation sur la pédagogie différenciée, qu'il y ait des choses comme ça, on le fait dans les INSPE, mais c'est pas une nouvelle réforme. Enfin. Nouvelle réforme un peu précipitée de la formation qui va régler la question du manque de candidats, des problèmes d'affectation dans les zones les plus difficiles des plus jeunes, enfin, etc. Donc, je rejoins un peu votre remarque de départ. Il y a un usage un peu politique de la question éducative puisque ça parle à tout le monde, à toutes les familles, à tous les parents.
Mais est-ce que ça parle aux enseignants?
Bah, les enseignants, oui, ça leur parle, forcément. Ils ont là aussi des idées, des représentations et un idéal de métier. Mais si vous rencontrez les étudiants, comme on le fait assez souvent quand même dans les INSPE, ils sont quand même assez fatigués de la multiplication des réformes. Donc, si c'est pour qu'il y en ait une, bah, évidemment, il faudra peut-être lui laisser le temps de s'installer, mais lui laisser le temps aussi de se mettre en place et puis avoir des temps d'évaluation sur la longue durée. Ce qu'on a rarement en France, on change de système très très rapidement. Ça devient un petit peu problématique, quoi. Alors qu'il y a des questions de fond. Vous parlez avec un jeune enseignant, ce qu'il va voir, c'est les conditions d'affectation. Comment je vais faire, où je vais être affecté. Et la plupart du temps en France, ils sont affectés dans les zones difficiles, sur des postes compliqués. Donc ça pose question. Enfin, il y a tout un tas d'éléments comme ça. Là, vous parliez tout à l'heure de la question de l'autorité. quelque part l'incertitude de la relation pédagogique en classe. C'est vrai que ça leur fait aussi peur, ces éléments-là. Donc bien sûr qu'il peut y avoir une réforme, mais il faut laisser le temps à cette réforme de s'installer, il faut laisser le temps de la formation, il faut mettre des moyens sur ces éléments-là.
C'est une forme de réponse sur les annonces politiques qui se succèdent et on va prolonger cette réflexion. Mais pour le moment, je vous propose d'écouter Thomas Legrand. Il est éditorialiste à Libération et producteur d'une très intéressante émission sur France Inter. Cette émission s'appelle Enquête de politique et analyse l'évolution des idées. Alors, je lui ai tout simplement demandé pourquoi ces déclarations et ces déclarations très mises en valeur par des politiques qui ne sont pas ministres de l'éducation mais premiers ministres ou même présidents sont si importantes.
Le rôle des déclarations en matière d'éducation, alors là c'est vraiment, vous savez, le moment important de la vie d'une norme ou d'une loi ou d'un décret, c'est pas le moment où il est appliqué, c'est le moment de son annonce. On l'a vu pour les groupes de niveau, etc. Le choc des savoirs, ce qui était important, c'était quand il l'annonçait. Puis on voit que petit à petit, ça se délite un peu, c'est plus compliqué que ça, mais finalement, à la fin, je crois que chacun fera un peu comme il veut. Moi, c'est le pari que je fais en septembre, ça sera ça.
Est-ce que parler d'autorité, comme l'a fait Gabriel Attal en ce mois d'avril 2024, ça marche? Est-ce qu'il y a un rendement politique? On a eu un président de la République, Nicolas Sarkozy, qui en avait beaucoup parlé lors de ses campagnes électorales, puis quand il a été au pouvoir. Est-ce que ça permet d'engranger des points de popularité?
Alors, je ne sais pas. J'ai des doutes. Je pense que ça fait engranger aucun point de popularité chez tous ceux qui connaissent très bien la machine. Chez tous les retraités qui se sont éloignés de la machine de l'éducation et qui votent plus que les autres, sans doute. C'est ça un peu le drame de la politique.
Et un si jeune Premier ministre, vous pensez, quand il tient ce genre de propos, s'adresse à la partie la plus âgée de l'électorat?
Il s'adresse à ceux qui votent le plus, je pense. Pas simplement, c'est vrai qu'il y a un sentiment de perte d'autorité. Et puis c'est vrai aussi, il ne faut pas le nier, que beaucoup de professeurs ne savent plus très bien comment réagir face à des classes qui peuvent être turbulentes. Mais la notion d'autorité en politique est assez intéressante. Et ça permet, la façon dont Gabriel Attal utilise l'autorité, permet, moi je cherche toujours depuis le début à essayer dans mes éditos à définir le macronisme, c'est quelque chose de compliqué. Et la notion d'autorité permet de le définir un petit peu. Pour la gauche, l'autorité, c'est soit une tyrannie, soit quelque chose d'utile, mais qui ne doit pas être prioritaire. Un outil un peu honteux, mais qu'on doit utiliser. Je crois que Jaurès disait que l'éducation, c'était la tension entre l'autorité et la liberté. Ça, c'est la vision de l'autorité de la gauche. La vision de l'autorité de la droite classique, c'est que l'autorité est le principal des outils. Et la vision de l'autorité de l'extrême droite, c'est que l'autorité est un but. Quand même, dans le discours de Gabriel Attal, ça serait malhonnête de dire que l'autorité est un but. Mais l'autorité, visiblement, est l'outil principal. Donc, voilà, pour moi qui analyse la politique, Gabriel Attal se range au centre-droit, dans la droite classique, en utilisant cette notion d'autorité-là.
Les déclarations de Gabriel Attal récentes ont été très très médiatisées. Là, il y a toutes celles qui concernent l'autorité, donc faites en avril. On avait eu le choc des savoirs annoncé en décembre et puis plus en détail ensuite. Et puis, la veille de la rentrée, alors que même un changement de date du bac était annoncé, il avait parlé de l'abaya, de l'interdire, de cette lettre qu'il envoyait aussi au chef d'établissement.
Alors, deux choses. Je vais venir à l'abaya, mais ce que vous avez dit sur l'abaya, on peut considérer qu'il y a eu une sur-médiatisation de cet aspect-là, mais c'est là encore, ça commence à l'école. On a l'impression, c'est pas qu'une impression, qu'il y a une tentative des islamistes de prendre de l'importance en politique ou dans la vie sociale des Français. C'est sans doute aussi surexploité et surestimé. Bon, en tout cas, ça existe. Et ça commence à l'école, donc on commence par l'abaya. Il interdit l'abaya. Alors, sur le moment, on est choqué, on parle que de ça, c'est vraiment... Mais il faut reconnaître quelque chose, c'est que du coup, on n'en parle plus. Le truc, il y a eu une décision claire. La décision est claire, c'est non. Après, On sait très bien comment ça se passe dans les... C'est plutôt appliqué, mais chaque chef d'établissement se débrouille. On l'a vu après la loi de 2004 sur l'interdiction du voile, c'est quand même largement appliqué. Mais la clarté du propos, je trouve, n'est pas spécialement à condamner. On n'en parle plus, là, et ça fait du bien.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Alors c'est intéressant de commenter les déclarations et le commentaire des déclarations comme l'a fait Thomas Legrand qui pointe un élément dont on a déjà parlé, Nicolas Hubé, vous qui êtes spécialiste de la communication politique, c'est que quand on parle de l'école, finalement on ne s'adresse pas à l'école, on s'adresse à toute la société. Et ça peut paraître décalé pour les acteurs de l'école, les enseignants en particulier, et parfois même les élèves. Par exemple, quand on parle d'uniforme, on ne pense pas la même chose du côté de l'électorat âgé. Et puis, quand on a 13 ou 14 ans, même si là encore, les avis peuvent varier. C'est peut-être, pour les spécialistes de l'éducation, cette dichotomie qui paraît poser problème.
Oui, clairement, parce que on le sait en politique, si on retourne la phrase d'Austin, c'est pas faire, c'est dire, c'est dire, c'est faire. Dire, c'est faire et dire qu'on va faire. Et donc, mettre un sujet dans le débat public, c'est déjà faire en sorte qu'on va pas parler d'autre chose. Ce que disait très bien aussi Thomas Legrand, c'est-à-dire qu'on assèche les autres sujets possibles. On ne voit que l'école à travers, finalement, cette question de l'autorité. On ne la voit pas sous d'autres angles. On ne la voit pas sous la question des moyens, par exemple. On ne la voit pas sous la
Je
question.
Comptais y venir, hein, c'est prévu.
Oui, bien sûr. Mais c'est justement une manière d'affirmer et de porter le regard sur un axe de l'école et pas les autres. Et donc, c'est un coup politique. C'est un deuxième coup politique aussi parce qu'on est dans un contexte particulier qui est celui des élections européennes à venir, avec un parti du Renaissance qui est un peu à la traîne. On est dans un contexte de droitisation finalement de l'axe politique. Ça revient à une des questions précédentes, c'est pourquoi on n'entend pas la gauche dans cette question. Et là, depuis une dizaine d'années, et même un peu avant, Nicolas Sarkozy avait réussi à ce qu'on a appelé droitiser le débat. Et donc, du coup, on regarde ces sujets à travers plutôt un axe de droite. Et, comme le disait très justement Thomas Legrand, on sait que l'électorat 2022 d'Emmanuel Macron n'est plus l'électorat 2017 d'Emmanuel Macron.
Où il y avait beaucoup d'enseignants.
Où il y avait plus d'enseignants, plutôt des enseignants plus âgés, mais on avait aussi plutôt des jeunes diplômés, etc. Là, on a un électorat, plus classiquement, un électorat, on va dire, de droite, plus âgé, plutôt cultivé, pas effectivement un électorat d'extrême droite, c'est pas un électorat Les Républicains, mais il a quand même très largement pris une partie de cet électorat, et donc il s'adresse à cet électorat qui vote pour lui, qui est cet électorat de retraités. Et donc du coup, effectivement, pour les enseignants, ils se sentent un petit peu mal compris, parce que c'est un discours qui s'adresse pas nécessairement à eux. Comme sur d'autres sujets, si on fait des déclarations sur d'autres domaines de politique publique, on va pouvoir s'adresser à l'ensemble de la société plutôt qu'aux acteurs concernés directement.
Jean-François Condette, est-ce qu'on a un problème de rencontre des axes qui finissent par être parallèles, en fait, entre des enseignants qui ont un certain nombre de problématiques à leur esprit, et puis le reste de la société et de l'électorat à qui on s'adresse, par exemple, quand on est Gabriel Attal?
Moi, je pense, oui, en effet, le temps de l'annonce politique, c'est pas le temps de la réforme réelle ou de la pratique quotidienne. Et bon, on le voit là, par exemple, dans ce qui a été annoncé, le fait de dire que le redoublement reviendra dans les mains des enseignants, des conseils de classe, ça peut éventuellement faire plaisir aux enseignants. Beaucoup moins, je pense, aux parents, éventuellement. Bon, mais après, il y a d'autres éléments qui ont été dits, qui vont vraiment dans le sens qu'avait déjà utilisé en effet Nicolas Sarkozy sur l'idée que l'influence néfaste de 1968, il est interdit d'interdire, etc. Comme si, quelque part, dans nos collèges, nos lycées ou nos écoles, il n'y avait pas de sanctions-punitions. Il y a tout un système qui existe, il y a tout un tas de commissions qui existent, de conseils de discipline et autres. Donc la structure existe, l'autorité, elle existe, même si elle est contestée. Donc il y a des choses qu'on, enfin toujours une différence que je fais entre quelque part ce que l'histoire permet de savoir et le fait de jouer sur les mémoires, sur les souvenirs et sur cette idée d'une école qui était mieux avant, enfin qui était plus respectueuse, etc., etc. Il faudrait en discuter longuement. Il y avait aussi des questions, des soucis de discipline et autres. Donc je trouve que le politique joue beaucoup avec les mémoires collectives ou les mémoires de chacun. Et dès lors, c'est compliqué, évidemment, parce qu'il y a des enjeux politiques derrière en période d'élection. Évidemment, dire retour de l'autorité... L'autorité, elle est là, elle est contestée, mais elle est là. Il faut simplement pouvoir l'appliquer.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touré.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see.
To see
all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird.
Blackbird dans Être et Savoir avec cette magnifique reprise de Beyoncé. C'est ma chanson préférée et notre sujet ce soir, ce n'est pas la politique éducative de la France, mais plutôt les annonces politiques sur le sujet éducatif quand elles sont extrêmement reprises dans les médias. On a avec Gabriel Attal, un spécialiste des coups politiques. Alors, évidemment, son discours sur la violence s'inscrit dans un contexte très particulier, hein, avec des faits divers particulièrement odieux et la mort du jeune Shamseddine. Il y avait aussi eu le choc des savoirs avant, et puis ces annonces à la veille de la rentrée sur la baïa qui avait tant été reprise. La question, évidemment, qu'on est en droit de se poser, c'est si cela écrase médiatiquement d'autres sujets, ce qui n'est pas le fait de la parole politique en elle-même, mais aussi le fait de mes collègues journalistes et journalistes politiques, et que d'autres questions sont un peu éclipsées. On a parlé ici, et on a parlé également ailleurs, de la mobilisation des enseignants, des parents, des élèves de Seine-Saint-Denis pour réclamer des moyens et un bâti scolaire, ce qui concerne la question des moyens, dignes des élèves, dignes de l'enseignement et l'éducation nationale. D'autres annonces importantes sont faites régulièrement. En ce moment, on commence à en avoir sur le budget de l'éducation nationale qui est réduit. Bref, Nicolas Hubé, est-ce qu'il y a un équilibre qui se trouve aujourd'hui eh bien, tiré par le politique en ce qui concerne les sujets éducatifs dont on parle le plus?
Alors, on est, si on prend un tout petit peu de distance par rapport au sujet
éducatif... C'est exactement ce qu'on doit faire ce soir.
Voilà. C'est comme ça que je me permets. C'est qu'effectivement, c'est un domaine de politique publique sur lequel on peut très facilement choisir ses sujets, choisir ses cibles. Et comme on le disait précédemment, c'est un sujet éminemment politique qui clive la classe politique et immédiatement, il y a des réactions. Il y a des réactions par l'opposition, par les oppositions. Il y a aussi, vous avez parlé des faits divers, une réaction médiatique immédiate sur les chaînes d'info en continu, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de radio, dans la presse écrite. Et donc, un fait divers avec un mort d'un enfant, c'est beaucoup plus visible immédiatement. Et on va essayer de trouver une réponse à cette question-là. Là, ce qui est intéressant, c'est que on va immédiatement connecter quelque chose qui se passe en dehors de l'école, avec l'école. On va connecter ce qui peut se passer, il y a encore un fait divers sordide aujourd'hui,
oui.
On le connecte immédiatement
avec
à la question...
La mort de Matisse.
Voilà. On va immédiatement le connecter à la question des parents, la question de l'autorité des parents, la question du coût de l'autorité de l'école. Et on déplace le sujet vers un autre problème qui est celui de la politique publique éducative et des réels besoins en matière de politique éducative. La question des moyens, la question aussi, comme le rappelait Jean-François Condette tout à l'heure, des réformes successives auxquelles on ne laisse pas le temps de mesurer leurs effets. Sur la réforme des INSPE et donc la formation des enseignants, la dernière réforme a eu lieu il y a 2 ans. On est en plein dedans, qu'on veut déjà la modifier. La question des heures supplémentaires, la question du remplacement des enseignants, toutes ces questions qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup moins faciles à capitaliser quand on est un politique, on ne peut pas faire de grandes déclarations. C'est aussi complexe parce que vous parliez du bâti. Le bâti est partagé entre qui le conseil départemental, qui le conseil régional et l'État. Et donc du coup, ce sont des sujets qu'on ne peut pas régler en un tweet. En une déclaration en 30 secondes, ça suppose une complexité que le politique, c'est-à-dire l'acteur politique ou le journaliste politique, va plus facilement s'économiser.
Et en même temps, on est dans un contexte d'économie sur l'éducation, donc c'est presque 700 millions d'euros qui sont repris à l'école. On a fait toute une émission sur le budget de l'école, je vous conseille de la podcaster, c'était extrêmement intéressant et instructif. Aujourd'hui, on m'apprend que les organisations syndicales ont été réunies à Paris par le rectorat pour annoncer les économies. Il va y avoir, par exemple, beaucoup de reprises d'heures supplémentaires, même si ces heures avaient déjà été attribuées, etc. Alors, c'est un peu technique, mais quand même, ça représente des millions et des millions. On en parle relativement peu, mais peut-être ai-je un biais de spécialiste de l'éducation. En tout cas, Jean-François Condette, je reviens avec vous sur l'équilibre des sujets éducation et sur ceux dont on parle le plus.
Oui, tout à fait. Ça parle plus à l'opinion et aux futurs électeurs de parler d'uniforme, de parler d'autorité, voire même d'école normale rénovée ou de la question de la laïcité, que de parler éventuellement de formation continue, savoir comment on peut former tout au long de sa carrière un enseignant. C'est des questions extrêmement techniques de remplacement, etc., qui parleront beaucoup moins, je dirais, aux parents, aux familles, sauf à à ce que l'enseignant soit absent, évidemment, pour aller se former. Et cette fois-ci, le gamin est à personne devant lui. Là, les questions de recrutement, on va pas y revenir non plus, mais c'est extrêmement technique. Ça parle beaucoup moins, ces éléments-là, parce que derrière, il y a des enjeux de moyens, il y a des enjeux de poste, d'affectation, de stagiaires à affecter à droite à gauche. Donc c'est beaucoup plus compliqué. On pourrait partir aussi sur éventuellement les programmes. Programmes scolaires, ça parle moins. Les méthodes d'apprentissage ou du français ou des maths, ça parle moins à l'opinion. C'est moins porteur politiquement que l'uniforme, évidemment, parce que là, tout le monde voit tout de suite ce que ça peut donner. Donc, souvent des dossiers techniques complexes, l'école, à variables multiples, avec une forte technicité. Donc, évidemment, il y a quelques thèmes. L'autorité, ça parle à tout le monde. Voilà, comment se faire respecter, l'uniforme aussi. Et il y en a d'autres qui parlent beaucoup moins. Donc, je crois qu'il y a un choix politique. Et après,
Ça m'étonne que vous disiez ça, parce que le fait de ne pas avoir d'enseignants devant ses enfants, quand on sait que c'est une situation relativement banale en France, de ne pas avoir de prof de maths pendant plusieurs semaines, plusieurs mois.
Ça peut concerner
les professeurs d'anglais. Pourquoi on en parle si peu politiquement? Parce que finalement, aucun parti au pouvoir n'a été capable d'endiguer ce problème.
Bon, je rejoins ce que disait le collègue, c'est-à-dire que derrière la formation continue, il y a aussi une énorme question de moyens, de formateurs à trouver, de temps à trouver. Et là, ce qui a été plus ou moins annoncé, qui serait un temps de formation continue sur les périodes de congés scolaires, le mercredi après-midi ou le soir. Alors ça peut parler en effet aux parents, parce qu'ils se diront, comme ça, il y aura plus d'absents pour raison de stage. Mais les enseignants, ils n'ont pas que leurs heures de cours, ils ont les cours à préparer. Enfin, ils ont toute une vie personnelle aussi. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Donc en fait, on est toujours sur des thématiques qui peuvent permettre d'aller beaucoup plus vite au niveau politique dans la prise de décision, dans l'annonce au moins, que ces dossiers-là qui sont extrêmement complexes. Hein. Les inspecteurs généraux le signaleront aussi. Dès qu'on touche à quelque chose, ça a des conséquences sur le système. Et donc, ces éléments-là sont devenus très, très techniques.
Mon expression, c'est quand on tire le fil, il y a toujours toute la pelote de l'éducation qui arrive avec... Alors, Nicolas Hubé, est-ce que ce sujet est si complexe, après tout d'autres sujets complexes politiquement, parce qu'il n'y a pas que l'éducation dans la vie, sont traités. La réforme des retraites a été débattue, on a pu assister à des grandes émissions où on rentrait vraiment dans le détail de ce que ça allait produire pour telle ou telle catégorie de personnes. On a entendu beaucoup de témoignages. On n'a pas vraiment l'équivalent pour l'éducation.
Non, c'est vrai. Et d'une part, vous dites on tire sur la pelote. Du coup, on voit l'éducation à travers des grandes masses ensuite. C'est-à-dire que on va les voir comme le premier budget de l'État. Et donc, ça coûte de l'argent, ça coûte des impôts. Donc, quand on veut parler des moyens, on va opposer d'un côté des demandes corporatistes, et on va les voir comme ça, les demandes corporatistes des enseignants face à ces grandes masses de budget. Et on veut pas rentrer dans des discussions d'ordre pédagogique, d'ordre de réaffectation des moyens. Et c'est assez... On va interroger dans ce cas des syndicalistes qui vont parler pour les enseignants. Et on va repartir sur l'idée qu'il y aurait un clivage, un refus de la réforme par les corporations de syndicalistes. Et donc, il y a une forme de méfiance de la parole des experts sur ces sujets-là.
Et peut-être une forme de répétition, vous avez dit repartir. Ce sentiment de répétition, j'en ai parlé avec Emmanuel Davidenkoff. Emmanuel Davidenkoff est rédacteur en chef au Monde. Il est aujourd'hui animateur sur School TV, qui est une chaîne entièrement consacrée aux questions d'éducation. Il a été longtemps rubricard, spécialiste de l'éducation dès les années 90. Je lui ai demandé ce qui, à ses yeux, avait changé dans la prise de parole des politiques sur l'éducation.
dans les années 90-2000, j'ai le souvenir et le sentiment qu'il y avait trois choses différentes. La première, c'est que le temps éducatif et le temps politique ont toujours été extrêmement différents, mais le temps politique allait quand même moins vite à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait déjà quelques chaînes d'information en continu, des radios, mais moins qu'aujourd'hui. Et donc cette distorsion absolument incroyable qu'il y a entre le temps politique, le temps du discours, le temps du débat, de la polémique, et le temps de la mise en œuvre d'une réforme sur le terrain était quand même moindre qu'il n'est aujourd'hui. La deuxième différence que je vois, c'est qu'à l'époque, la vie politique était quand même encore structurée par le clivage droite-gauche, avec des extrêmes qui étaient certes en train de monter très très fortement, et dès 2002 on arrive à l'extrême droite au deuxième tour, mais c'était encore quand même structuré par des systèmes idéologiques, avec des discours relativement repérables de droite ou de gauche, notamment sur les questions d'éducation, alors avec un brouillage qui existait déjà à gauche, qui était très très fort, mais qui aujourd'hui a complètement volé en éclats. On ne sait plus qui pense quoi, ça devient très difficile à lire. Et puis peut-être le troisième changement, et ça démarre aussi pour moi dans les années 2000, ou alors peut-être dès la fin des années 80 avec Creil et la première affaire du voile, mais disons surtout les années 2000 avec la loi sur le voile, c'est une instrumentalisation du débat éducatif et de l'école pour un discours sur des valeurs, un discours politique, mais au sens très idéologique du terme, qui n'a qu'un rapport quand même assez lointain avec ce qui se passe dans l'extraordinaire majorité des établissements scolaires de ce pays. Voilà. Donc pour moi, c'est les trois principaux changements qu'on a observés et qui rendent, je ne suis plus l'actualité de l'éducation au quotidien aujourd'hui, et d'une certaine façon, j'en suis soulagé parce que j'y comprendrais, enfin, je ne sais pas si j'y comprenais grand-chose il y a 20 ans, mais en tout cas, ça me semble beaucoup plus complexe à lire aujourd'hui que ça n'était hier.
Est-ce que justement, au bout d'un moment, en tant que journaliste éducation, Emmanuel Davydenkov, on est fatigué par une forme de répétition ?
Ah mais on est épuisé. Il y a des schémas, mais je pense que toutes les consoeurs, tous les confrères qui ont suivi longtemps l'éducation l'ont vécu. Parfois, on écoute les informations et on sait exactement dans le sonore du ministère ce qu'il va y avoir et dans le sonore de tel ou tel syndicat ce qu'il va dire. Voilà, moi, je me suis fait un syndicat elbow. C'est comme un tennis elbow, c'est une crampe au niveau du coude à force de faire copier-coller des mêmes communiqués des années durant. C'est-à-dire que effectivement, mais alors ce que je peux comprendre en même temps, parce qu'une fois de plus, le temps éducatif, le vrai temps éducatif, celui de ce qui se passe dans l'établissement, il est long. Donc au fond, que les choses se répète, que les schémas soient relativement stables, je peux le comprendre, mais le suivi de l'actualité peut avoir un effet effectivement très lassant. Le secret, la clé, pour moi, ça a toujours été de retourner dans les établissements, parce que là, il y a une vie absolument dingue, absolument extraordinaire, et d'une certaine façon, ça donne le moral et ça donne envie de continuer à s'intéresser aux questions d'éducation. Le choix éditorial de School TV, ça a été de se dire que oui, il y a beaucoup de problèmes dans l'école, mais il y a un tas de gens qui portent des solutions et c'est plutôt de les mettre en lumière, de les mettre en valeur. Donc, c'est un regard, c'est un choix éditorial, c'est un regard biaisé, on l'assume totalement. C'est plutôt de mettre en lumière des gens qui, parfois, ont pu être déprimés, désespérés, attristés, que sais-je, mais qui, à travers l'action, à travers ce qu'ils mettent en œuvre dans les établissements, ou à travers un bouquin, ou à travers un livre pour les jeunes, un spectacle, que sais-je, font des choses. Et donc, en fait, quand vous les regardez, ils n'ont pas l'air si déprimés que ça, du moins on espère, parce que le but du jeu, c'est quand même de dire qu'il y a une lumière au bout du tunnel.
Alors, lumière au bout du tunnel, je ne sais pas, mais c'est vrai que sur France Culture aussi, on aime parler de manière positive de ce qui se passe bien dans l'école, même si elle est loin d'être uniforme et tout ne se passe pas bien, Jean-François Condette. Et le sens de ma question, c'est bien de savoir si... Alors, on a parlé du fait que les déclarations d'un Premier ministre comme Gabriel Attal pouvaient masquer d'autres informations sur l'école très importantes. Est-ce que ça masque pas aussi, parfois, bien des choses positives, le fait que des établissements où ça roule ? Et des inspects où ça roule. Je ne sais pas, peut-être est-ce naïf que de dire cela ?
Non, pas du tout, heureusement. C'est une très bonne question. Je pense qu'en réalité, ouais, c'est vrai que le temps médiatique, enfin, toutes les affaires qui sortent dans les médias, dans les chaînes d'infos en continu, sur les réseaux sociaux, etc., insistent presque systématiquement sur des catastrophes, sur des éléments extrêmement noirs, mais que le système éducatif dans l'ensemble, même s'il n'arrive pas à régler entièrement la question des inégalités, même s'il y a des questions de niveau et de résultats, c'est évident. Pour une bonne partie des élèves, je pense, sont quand même heureux dans leur établissement. Hein. Ils progressent, ils travaillent, et les enseignants eux-mêmes ont l'impression d'avoir un travail qui est une réelle mission sociale. Donc je pense que beaucoup d'enseignants sont aussi heureux dans le métier. Voilà, donc il faut pas non plus voir les choses tout le temps systématiquement en noir. Les UFM, les SP, les INSP, les futurs, dans l'ensemble, forment des milliers de nouveaux, de jeunes enseignants qui reste dans le métier, qui démissionne pas à la fin des deux, trois années qui viennent. Donc, c'est que le système fonctionne dans l'ensemble. Il faut le collègue signaler qu'on était quand même dans un système extrêmement massifié. C'est une énorme entreprise, l'éducation nationale. Et que dans l'ensemble, moi, je trouve qu'il y a quand même, chez la plupart des collègues, un dévouement à la cause qui est extrêmement, extrêmement important. Ce qui justement, peut-être les fragilise un petit peu, c'est cette réformite aiguë, quoi. Voilà. Beaucoup voudraient du temps pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, dans le respect des cadres, bien évidemment, mais avoir le temps de mettre en place les choses. Mais non, vous avez raison. Heureusement, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent.
Nicolas.
Et qui fonctionnent bien.
Merci pour ces précisions. Nicolas Hubé, en tant que spécialiste de la communication, et peut-être que ça ne vaut pas que pour l'école, mais est-ce que le fait d'informer sur les problèmes, cette question je la pose parfois à des enseignants, hein, et les questions vives autour de l'éducation, vives et conflictuelles, ne donnent pas une mauvaise image d'une institution qui rencontre plein de problèmes, mais qui n'est pas que cela, et qu'il devient très difficile, à part peut-être dans des fictions, comme mais je pense à Un métier sérieux, qui est de Thomas Litty, qui était sorti en septembre 2023, donne une impression très négative de toute l'éducation nationale.
Oui, c'est effectivement la question qu'on enseigne en école de journalisme, des trains qui arrivent à l'heure et les trains qui arrivent en retard. Enfin, c'est quelle est la priorité de l'information ? La priorité de l'information est plutôt de regarder là où ça va pas, là où il se passe des choses, plutôt que là où il se passe rien. Comme le disait aussi Jean-François Condette tout à l'heure, je suis aussi enseignant à l'INSPE, donc je forme et je vois, je rencontre des futurs enseignants, heureusement qu'ils ont encore la foi chevillée au corps. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la question des moyens, etc. Je pense que vos auditeurs sont plutôt du côté du pôle enseignant, donc ça ne va pas les surprendre, mais je veux dire, l'opinion publique devrait entendre plus souvent que, malgré leur manque de moyens, etc., heureusement qu'on a encore des enseignants qui sont engagés, qui ont la foi pour le coup, dans leur métier, parce que leurs conditions de travail ne sont pas roses. Et ce qui fait tenir encore le modèle éducatif français, c'est justement qu'on a des personnes qui sont très engagées. Mais effectivement, on a tendance à regarder plutôt ce qui va mal. Si on prend par exemple les chiffres sur la laïcité ou les atteintes à la laïcité, alors ils sont en hausse, ils augmentent de 30%, on dit 1738 lors du dernier trimestre, on a 12 millions d'élèves en France. Donc on peut se dire, effectivement, ça monte, c'est grave. Les atteintes à la laïcité, c'est sans doute un sujet très grave. C'est pas un sujet sur lequel on doit prendre à la légère. Et mais sur 12 millions de personnes, 1700, c'est pas grand-chose.
Et peut-être une attention plus grande est portée à ce sujet.
Et on porte et plus grand l'attention sur ces atteintes.
L'augmentation du chiffre que vous avez.
Aussi. C'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on a souvent. À partir du moment où on s'intéresse à un phénomène, on le fait exister. Il n'y avait pas de problème de harcèlement à l'école avant l'enquête de 2010 sur les violences à l'école, où on découvre le problème de harcèlement et subitement, on a 10%.
Mais heureusement qu'on en parle.
Mais du coup, on a l'impression que c'est un sujet qui est devenu très important. Alors, c'est le temps qu'on découvre le sujet, que tout le monde prend conscience du sujet et qu'on commence à relever, à noter, à compter ce qui se passe dans les établissements. Ça ne veut pas dire que les établissements scolaires sont des zones de non-droit, que partout, tout enfant se fait systématiquement harceler, cyberharceler, agresser, qu'il y a des atteintes à la laïcité tous les matins devant toutes les portes de tous les établissements scolaires. Encore une fois, il ne s'agit pas de minimiser les sujets, mais effectivement, il y a aussi une attention politique et médiatique à ce qui va mal, et on a un très fort déséquilibre entre ces faits divers, et pour reprendre ce que pouvait dire Bourdieu du fait divers, le fait divers est là pour faire diversion.
C'est compliqué, parce que en même temps, quand il s'agit de morts d'enfants, on ne peut pas penser... En tout cas, moi, je ne pense pas qu'on fait diversion.
Non, bien sûr.
On est bien obligé d'en parler collectivement. On peut même se réjouir du fait qu'on en parle collectivement alors que peut-être que dans les années 60 ou 70, plein de faits de violence n'étaient pas autant médiatisés. Mais je suis pas une historienne de ce sujet moi-même, et Claude Lelièvre en a beaucoup parlé, Claude Lelièvre historien. La violence, ce n'est pas non plus une nouveauté totale dans la jeunesse, bien sûr, et dans l'école, de même que les réponses, les analyses, les études sur la question, y compris celles commandées par le ministère, comme celle d'Éric Debarbieux. Jean-François Condette, je voudrais terminer avec vous, et une question un peu historique. On a fait référence à l'histoire républicaine, l'histoire de l'école, c'est de toute façon extrêmement liés, j'allais dire c'est la même chose, pas tout à fait non plus. Est-ce que l'école, qui aujourd'hui doit, puisqu'elle est comptable de tout, se consacrer à prévenir les violences chez les jeunes, qui doit aujourd'hui se consacrer à lutter contre les discriminations, n'est pas victime de son histoire et de sa centralité politique en termes de transmission des valeurs de notre pays. Et je n'ai pas de mots assez grands pour définir cette immense mission de l'éducation nationale.
Ah oui, en effet, c'est un peu la dernière institution debout, donc dans laquelle tous les petits Français et les petites Françaises passent.
Ah bah comme c'est dommage, on a une petite rupture. Alors je vais me tourner vers vous, Nicolas Hubé, puisque vous êtes dans le studio avec moi, bien que vous ne soyez pas historien. Comment vous analysez ce rapport à l'histoire ? Est-ce que on est victime d'une histoire extrêmement lourde à porter avec des enjeux d'aujourd'hui ?
Oui, c'est une histoire, on disait tout à l'heure, de Napoléon à Guizot, en passant par Jules Ferry à Jean Zay. Donc on a toutes les grandes figures de nos deux derniers siècles politiques qui, à un moment donné, se sont penchées sur cette question. Donc c'est un quelque chose d'assez lourd. Et on le sait, l'école, c'est aussi là qu'on forge la nation. Si on pense aux travaux d'Alain Corbin, qui il y a une quinzaine d'années avait travaillé sur un manuel scolaire du début du siècle, 1515 et les grandes dates de l'histoire de France, qui nous montre comment on raconte une histoire. Et on le voit comment, à l'inverse, ou en effet retour, quelqu'un comme Éric Zemmour va pouvoir reprendre là encore le récit national pour dire que l'école fait mal, le récit national, un récit post-colonial qui ne va pas, etc. Alors qu'il y a le récit des grandes dates. J'aimerais revenir aussi, si vous parliez des films sur le rapport à la violence, des fictions. C'est toujours ce qui me surprend toujours, c'est le poids que l'on met dans la mythologie cinématographique française à La Guerre des Boutons, qui est un film d'une extrême violence scolaire. Ça raconte l'histoire de deux villages qui se font la guerre à l'école, où ça se passe mal. Alors certes, tout le monde rigole.
Avec des enfants qui se battent et se font taper dessus.
Et se font taper dessus par le prof,
par
les parents qui ont un rapport à l'alcool, etc. Et pourtant, ça fait partie d'une mythologie française de cette école d'antan. Alors, est-ce que c'est ça l'école d'antan que veut Emmanuel Macron en août quand il dit il faut revenir à l'école d'antan ? Je suis pas certain que ce soit le meilleur des modèles et le plus pacifique des modèles. Ou les 400 coups, qui est aussi une école extrêmement violente.
Et un film d'une telle sensibilité sur la jeunesse, la notion d'autorité qui ne va pas exactement dans le sens des discours qui sont tenus aujourd'hui. Magnifique à voir avec des enfants ou des ados, les 400 coups évidemment. Jean-François Condette, on vous a retrouvé au téléphone. Donc ma question, je ne sais pas si vous aviez eu le temps de l'entendre, c'est en gros, est-ce que l'école n'est pas victime de son histoire, du poids de cette histoire avec des enjeux aujourd'hui qui sont des questions qu'on ne se posait pas forcément avant sur la violence, les inégalités, etc.
Moi, je pense que le poids de l'histoire est aussi intéressant, c'est-à-dire que ça explique, ça permet d'être une sorte de vaccin contre la naïveté, quelque part. L'idée de mettre en place des choses nouvelles, systématiques, alors qu'on a déjà essayé de travailler sur ces éléments-là. Sur la violence, par exemple, il y avait déjà des réflexions intéressantes au 19e, pendant la première partie du 20e siècle. Donc, étudier l'histoire, ça permet peut-être de justement de réfléchir à ces éléments, à ces éléments-là, et de pas reproduire les mêmes choses. Donc on pourrait reprendre les punitions, enfin tous ces éléments-là, ça a déjà été assez fortement travaillé. Donc, je suis pas sûr que l'histoire soit un poids. Elle doit être là pour aider à la prise, quelque part, à la prise de décision.
Mais à condition.
Même si l'histoire se répète jamais et que les contextes sont plus les mêmes, quoi, évidemment.
À condition de bien la connaître. Et pour ça, on peut vous lire, Jean-François Condette. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission à distance. Merci également Nicolas Hubé, l'équipe d'Être et Savoir. C'est Avril Ventura, adjointe à la production, Perret Legras à la réalisation, et ce soir, Anthony Thomasson à la prise de son.